pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est la deuxième saison du journal breton d'Inès Leroux et le deuxième épisode. Un feuilleton aussi haletant que vos séries télé, avec des enquêtes, des secrets, des rebondissements, des personnages qui évoluent et des situations qui se retournent. Le cadre, c'est le centre de la Bretagne, première région agroalimentaire de France. Le sujet, ça tombe bien, c'est l'agroalimentaire. Ici, sur seulement 5% des terres agricoles françaises, on produit 57% de la viande et du lait français. 60% des porcs français viennent de Bretagne, 40% de la volaille, 20% du lait. La concentration animale y est donc très importante. Il se trouve ici, par exemple, 4 fois plus de cochons, qui sont 12 millions, que d'habitants, qui sont 3 millions. De nombreux emplois dépendent forcément de cette industrie. En Bretagne, un salarié sur 3 au moins travaille dans l'agroalimentaire. Une grande partie sont liées à des coopératives toutes puissantes. Parmi ces salariés, la moitié travaille dans l'industrie de la viande. Chaque personne aura donc dans son entourage plusieurs autres personnes dans l'agroalimentaire qui, du coup, a une emprise énorme sur la vie des gens, la vie politique, les élus. Dans un contexte de chômage qui ne baisse pas ou peu, de travail précaire ou flexible, la peur de perdre son travail ne favorise pas la liberté d'expression. Les lieux de contestation ou les espaces de contre-pouvoir sont rares. Mais Inès Leroux les a trouvés. Elle vous raconte aujourd'hui deux combats de citoyens à côté de chez elle, deux tentatives de changer la face du monde. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, journal breton, saison 2, épisode 2 sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
À l'automne 2015, je me suis installée dans un hameau breton pour enquêter sur le système agroalimentaire. Au début, c'était pour quelques mois, mais ça fait déjà 2 ans et j'y suis toujours. Je me passionne pour les villages autour de chez moi. Souvent ruinés par les grandes surfaces et les zones industrielles, ils ressemblent parfois à des villages dortoirs, ou même fantômes. Nombre de maisons y sont à vendre. Et pourtant, avec le temps, je découvre qu'il s'y passe plein de choses. Je ressens même une chaleur humaine comme je n'en ai jamais connue ailleurs en France.
Moi, c'est Thierry et j'habite en centre-Bretagne. Je suis fils d'agriculteur. Je suis en invalidité. Je travaillais dans l'agroalimentaire et j'avais des problèmes de dos depuis mon enfance déjà. Et donc, arrivé à 35 ans, je ne pouvais plus travailler. Donc j'ai eu une invalidité. Donc j'avais du temps à offrir. Et j'ai été bénévole sur la jungle de Calais. Et j'ai recueilli un migrant chez moi, qui depuis la fin de la jungle habite chez moi, qui s'appelle Tony. Je suis parti avec quelques amis comme bénévole et je suis resté plus longtemps que prévu, puis retourné. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable là-bas, donc c'était très fort. Tous les bénévoles qui allaient sur la jungle étaient très bouleversés par les conditions et puis quand même toute cette humanité, et cette fraternité. Une fois qu'on y était, c'était très dur de partir parce qu'on avait l'impression de les abandonner. Donc j'avais toujours cette envie quoi de revenir sans cesse aider, apporter ma présence. J'ai l'impression que tout le monde se rassurait un peu. Donc eux me rassuraient quand j'étais dans la jungle et j'avais l'impression de les rassurer aussi par ma présence.
Moi, je suis Tony, j'ai l'âge de 36 ans. J'ai vécu dans la jungle pendant 1 an et 3 mois parce que je veux passer en Grande-Bretagne. Parce qu'il y a mon frère avec sa femme et ses enfants en Grande-Bretagne.
Vous avez essayé plusieurs fois de rejoindre la Grande-Bretagne ?
Oui, j'ai essayé plusieurs fois, environ 25, 30, ouais. C'est la seule chance pour nous.
Comment les gendarmes ont-ils fait pour vous trouver ?
La première fois avec le scanner. Les camions passent le scanner. Et puis, avec les chiens, c'est deux choses, scanner ou chien. Et tu retournes pour faire une autre chance. Et...
Ce que vous appelez la chance, c'est une tentative de départ vers l'Angleterre.
Oui. Ouais.
Tout le monde appelait ça la chance dans la jungle. Et c'était assez émouvant quand ils nous parlaient de ça, parce que c'est ce qui les faisait tenir. Parce que les conditions étaient très rudes. Donc de voir tous ces hommes partir faire 10 km aller, 10 km retour dans la nuit, avec tous les risques que ça comporte, de se retrouver à plusieurs sur des parkings pour un même camion. Ils avaient toujours l'espoir, jusqu'au dernier moment, quoi. Moi, j'ai rencontré Tony sur une cuisine. On cuisinait toute la journée avec des bénévoles qui venaient d'Utopia 56, une association de Bretagne aussi. Et il était avec trois autres migrants, donc leur tente avait brûlé. Et donc, ils sont venus nous aider sur la cuisine et dormir sur la cuisine avec nous. Donc, ils étaient vraiment 24 heures sur 24, quoi, à nous aider. Et donc, tous ensemble, on cuisinait pour à peu près 1000 personnes tous les soirs. Tous les migrants étaient bienvenus pour venir aider. Pour eux, c'était aussi une occupation et c'était du bénévolat. C'était vraiment des migrants qui faisaient du bénévolat. Et donc, on pouvait être très nombreux, en fait. On pouvait se retrouver à 20, 30 pour cuisiner, quoi.
Comment ça s'est décidé que finalement, quand la jungle a été démantelée, vous ayez ramené chez vous, en Centre-Bretagne, Tony ?
Une semaine avant le démantèlement, je lui ai dit que s'il ne savait pas où aller, il pouvait venir chez moi, il n'y avait pas de problème. Parce que c'était mon ami le plus proche.
J'ai eu beaucoup de la chance. J'ai trouvé un meilleur ami que je connais dans la France, oui. La première fois, lorsque j'ai appris que la jungle est finie, je suis très très inquiété parce que je ne sais pas où j'allais. Il n'y a aucune place pour aller. Je trouve Thierry qui a dit « Tony, ne t'inquiète pas, réfléchis un peu, tu peux aller avec moi et tout. » Et je suis très content parce que c'est bien pour moi. Je suis avec un grand ami pour moi.
Et pour vous, c'est pas trop lourd à porter ?
Non, du tout. Du tout, du tout. Mais peut-être parce que j'ai eu l'habitude d'avoir des enfants. J'ai encore des enfants qui viennent à la maison. Donc, peut-être c'est un peu comme si c'était un de mes enfants. Comme quelqu'un de la famille, en fait. Donc, ça change pas grand-chose. Même dans mon budget, dans mes courses, ça ne change quasiment rien. On ne mange pas de la viande tous les jours. Mais ça ne me dérange pas plus. Je crois que la jungle m'a appris des choses. Elle m'a fait vraiment comprendre qu'on pouvait vivre avec très 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 peu. Et, je pense un petit feu, des amis, un peu de nourriture. Et, ça suffit souvent. Il y avait quand même beaucoup d'humanité, quoi, et beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. Ce besoin de fraternité est plus fort qu'ailleurs, quoi. Et puis, ça a été une sacrée aventure humaine et vraiment un endroit qu'on peut pas, on a du mal à expliquer et qui a disparu comme ça, un peu comme un rêve, un peu comme un mirage. C'était quelque chose qui s'était créé tout seul et qui a disparu en deux jours dans les flammes, en fumée. Tout a disparu. Et je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai rencontré énormément de gens différents de tous les pays d'Afrique quasiment, toute l'Arabie, toute l'Europe, dans les bénévoles. C'était vraiment une aventure humaine formidable et qui se prolonge.
Quelques temps plus tard, certains habitants du village de Thierry ont décidé de participer à son action. Ils ont même voulu accueillir d'autres migrants. Abdel est donc arrivé. Les habitants ont fondé une association et engagé en service civique Léa, une villageoise de 22 ans. Des soirées crêpes, des concerts, un atelier de couture de sacs ont été mis en place pour récolter de l'argent. Et Léa a créé un planning en ligne dans lequel les habitants s'inscrivent pour proposer des activités à Abdel et à Tony. Jogging, atelier fromage, chantier bois, cours d'anglais. De leur côté, les deux hommes envisagent de donner des cours d'arabe. Je ne peux vous donner ni le nom du village, ni celui de l'association, et les prénoms ont été modifiés car cette mobilisation est interdite, et les habitants risquent des poursuites judiciaires.
France Culture, les pieds sur terre.
Pour continuer avec ceux qui œuvrent pour le bien commun dans les Côtes d'Armor et se heurtent au pouvoir public, je vous emmène maintenant dans le nord du département. Vous vous souvenez peut-être que la première saison du journal breton se terminait par une enquête sur les algues vertes. Pour planter le décor, je vais vous raconter un échange que j'ai eu il y a un an et demi par téléphone avec le directeur de la communication de la préfecture des Côtes d'Armor. Je commençais alors tout juste mon enquête. Je travaille sur les algues vertes. Je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet des 36 sangliers retrouvés morts dans l'estuaire du Goessant en 2011, ai-je demandé à mon interlocuteur. Alors là, vous faites erreur. Ça n'a rien à voir avec les algues vertes, les sangliers. Personne ne pourra prouver qu'il y a un lien. Ah, d'accord, et on pourrait faire un entretien où vous me dites ça ? Non. Pourquoi ? Puisque je vous dis qu'il n'y a rien à dire. C'est quand même intéressant de dire qu'on ne peut pas savoir. On pourrait peut-être s'entretenir sur ça. Non. Pourquoi ? Parce que il n'y a rien, donc il n'y a pas lieu de parler sur rien. Cet échange presque métaphysique s'est terminé par cette déclaration de mon interlocuteur. Je vous préviens, si mon nom sort, je vous attaque en diffamation. Voilà le genre de réaction qu'ont certaines administrations bretonnes quand on leur parle d'algues vertes. Cette omerta, je l'ai décrite en détail dans une BD parue il y a peu dans la revue Dessinée. Le dernier événement en date concernant les algues vertes, c'est une mort suspecte qui a eu lieu dans les Côtes d'Armor. Les rubriques des faits divers ont alors répété les déclarations du procureur. Un jogger s'est enlisé dans la vase, les efforts qu'il a faits pour en sortir ont provoqué un arrêt cardiaque dont il est décédé. On en serait sans doute resté là, si Yves-Marie Lelay, un de mes voisins costarmoricains militant associatif, ne s'y était pas intéressé.
Tout commence ici, chez moi, quand je reçois un coup de fil de mon ami président d'une association de traits du lair nature patrimoine, qui me dit « Bah écoute, il y a un jogger qui est mort dans le Goessant ». Alors, il avait 50 ans, hein. Et c'était un sportif de haut niveau. Donc c'est une personne sur laquelle on ne pouvait avoir aucun doute sur l'état de santé. Le Goessant, nous savons depuis longtemps que c'est une rivière qui est particulièrement malade, puisque en 2011, il y a 36 sangliers, un blaireau et deux ragondins qui sont morts. Donc c'est une zone dangereuse. Donc tout de suite, nous sommes en éveil. Et alors, nous sommes partis à trois. Sur place, le samedi.
C'est deux jours après le décès.
Deux jours après le décès. Donc, nous sommes allés, d'autant plus que le procureur publiait un communiqué, qu'il avait rédigé le vendredi, qui paraissait le samedi, où il disait qu'il n'y avait aucun rapport entre la mort et les marées vertes, que de toute façon, la mort des sangliers en 2011 auxquels on pouvait faire référence restait une énigme.
Et ces sangliers, il a été montré par l'INERIS et par l'ANSES, deux agences nationales de santé, voilà, que la mort était très probablement liée aux, voilà, algues vertes en décomposition qui stationnaient à cet endroit.
C'est ça. Bon, donc, rien que voyant ça, on est allé sur place. Et puis, voilà, j'ai fait un compte-rendu détaillé de notre visite sur place. Alors, on est allé à Troyes. Il y avait une qui assurait la sécurité, hein, avec une corde. Et puis moi, j'étais dans ce milieu putride avec mon détecteur de gaz et mon masque. Et puis, bien évidemment, il y avait l'hydrogène sulfuré. J'ai dû aller jusqu'à 380 ou presque 400 ppm.
C'était parti par million.
Parti par million d'hydrogène sulfuré. Un gaz qui est un toxique puissant et qui est libéré dans les algues vertes en décomposition. Elle se dépose sur les bords de la rivière, dans la vase. Et en pourrissant, elle rentre dans le substrat vaseux. Et donc, le substrat vaseux est une véritable éponge à hydrogène sulfuré. Et là, on voit sur la photo, la totalité du goéland est atteinte. C'est pas seulement des poches, comme on peut trouver dans d'autres estuaires, comme ici le Douron, c'est partout. Donc, ce milieu, il est mort. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'oiseaux. Or, ce sont des zones extrêmement riches. On n'a pas vu d'oiseaux. Les estuaires, c'est fait pour les oiseaux. Et ça, c'est une réserve naturelle. On n'a pas le droit d'y aller. La question qui est posée, c'est de savoir si on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est une réserve naturelle ou parce qu'il ne faut pas voir l'état de putréfaction de ce milieu. Et donc, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y avait des algues vertes en décomposition. Il y avait l'hydrogène sulfuré. Tous les ingrédients pour une mort violente par intoxication. On découvrait sur place le contraire de ce qui était dit au public par le procureur. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons donc écrit au procureur, dès le lundi. Et donc, il y a eu des réactions de la presse, et en particulier, ça a fait réagir un pompier. Moi, pompier, je suis venu sur place, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était enfoui dans la vase jusqu'à la ceinture. Nous avons trouvé quelqu'un qui était allongé dans la vase, le nez sur la vase. Ce qu'on nous dit de la mort de ce jogger, ça ne correspond pas du tout à la déclaration qu'a fait le maire de Huillon et qu'a fait le procureur.
Donc la thèse, c'est que ce jogger s'était enlisé malencontreusement et qu'à force d'essayer de se dégager, il en était mort.
Voilà. Et que donc, il n'y avait aucun rapport avec les marées vertes. Et donc, ça démontait complètement le propos du maire. Donc, monsieur le maire a fait un faux témoignage à monsieur le procureur. Apparemment, monsieur le procureur ne l'en vaut pas trop.
Mais il s'est basé sur quoi pour faire ce témoignage, le maire d'Illion?
Il s'est basé sur une seule chose. Surtout, ne pas dire que les marées vertes tuent.
Quelques kilomètres de chez moi, il y a RKB, ou Radio Craze Braze. En français, ça veut dire Radio Centre-Bretagne. Je vous en reparlerai sans doute. Suite à l'alerte d'Yves-Marie Lelay, Morgane, une des animatrices, a eu cet échange avec le maire d'Illion.
Il n'y a pas de suspicion que ce décès soit dû aux algues vertes. Ce décès est dû justement à quelqu'un qui a été pris dans la vase, comme il aurait pu l'être si ça s'était passé au Mont-Saint-Michel dans les sables mouvants, par exemple. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est d'avoir perdu une femme, son mari et les enfants, leur papa. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de remuer des affaires comme celle-là pour la perte de cet homme et qu'on doit être plus justement en empathie envers la famille qui perd un être cher.
Non, mais l'empathie, elle est là, Monsieur Cosson. C'est plutôt un questionnement et savoir est-ce qu'il est prudent d'aller à Illion se promener.
Il est bien entendu prudent d'aller se promener à Lyon. Il est même fortement conseillé d'aller découvrir cette belle commune qui mérite d'être connue pour bien d'autres choses que ce dont vous me parlez depuis le début.
Il faut peut-être que je vous précise que le maire d'Illion est aussi président de l'office de tourisme de la baie de Saint-Brieuc. Morgane, la journaliste d'RKB, a ensuite appelé le directeur de la communication de la préfecture des Côtes d'Armor, avec lequel l'échange n'a pas été moins surprenant que celui que j'avais eu avec lui un an auparavant.
Ben, moi, j'ai rien à dire, en fait, parce que c'est pas moi qui ai constaté le décès.
D'accord.
Je vois pas ce que je peux vous dire. C'est un décès, voilà, enfin, je sais pas me prononcer sur un décès. Il y a des décès, malheureusement, régulièrement dans le département.
Oui, mais là, c'est en lien avec quelqu'un qui s'est envasé. Ça rappelle étrangement l'histoire du cavalier qui s'était envasé dans un endroit où il disait ne pas voir d'algues vertes.
D'accord, et... bah, attendez, expliquez-vous, alors. D'accord, très bien. Bah écoutez, non, je sais pas.
Quelle Pourquoi vous n'y aviez pas pensé ?
Ah non, non, franchement, non.
Si
vous posez des questions précises,
est-ce que...
je vais prendre note de vos questions et je vais les pousser vers les services concernés.
Il faudrait que j'ai des réponses précises assez rapidement.
C'est ce que l'on fait régulièrement. On
D'accord.
Fait ça dans les temps, on n'attend pas 3 mois pour vous répondre, il n'y a pas de souci.
Depuis, Morgane n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture. Quant au maire d'Illion, j'ai cherché à le joindre, il répond aux abonnés absents.
Dès qu'il y a un accident, eh bien, l'administration et souvent les maires, eh bien, ils disent non, ça n'a rien à voir avec la marée verte. Ils ne peuvent pas admettre que l'hydrogène sulfuré dans leur commune puisse tuer des gens. Enfin, quand on fait le total des victimes, hommes et animaux, c'est 40-50 êtres vivants qui sont morts.
En tout cas, les victimes recensées pour l'instant, c'est un jogger mort en 1989, un jogger de 26 ans.
Oui.
Un ouvrier des algues vertes qui a fait un coma en 1999.
Oui.
2 chiens sur la plage d'Illion en 2008. Oui. Un cheval mort et son cavalier qui a fait un malaise en 2009. Oui. Ainsi qu'un ouvrier des algues vertes mort en 2009.
Oui.
36 à 40 animaux sauvages en 2011.
Voilà.
Et le jogger de 2016.
Et le jogger de 2016. Donc ça, c'est des victimes recensées. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y en a pas eu d'autres. En tout cas, on a l'impression que plus les victimes s'accumulent et plus le déni s'amplifie. Et là-dedans, à part nos associations, eh bien, c'est le désert complet. À l'occasion de la mort du jogger, aucun parti politique ne se pose la question de ce que c'est quand même les causes de ce déni. Et la cause de ce déni, c'est la cause des marées vertes. C'est le complexe agro-industriel. Une des raisons pour lesquelles nous avons refusé d'entériner les plans algues vertes à leur création en 2011, qui était censé lutter contre les marées vertes, c'est que il n'est même pas mentionné que les marées vertes sont dangereuses, toxiques. Et c'est pour ça que l'on met en place des plans algues vertes. Donc si vous ne le mentionnez pas, bien évidemment, on comprend pourquoi vous vous donnez comme délai d'aller jusqu'à 2027 pour au départ les éradiquer et maintenant pour en limiter le nombre. Effectivement, si on dit que les marées vertes sont très dangereuses, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va attendre 2027 pour pouvoir en finir. Donc en fait, tout se tient. Mais c'est surtout parce qu'il faut couvrir la cause des marées vertes, c'est-à-dire une agriculture intensive qui se fracasse contre les lois de l'économie, qui perd des emplois toujours, mais qu'il faut sauver malgré tout. Donc, bien évidemment, tant que personne ne voudra s'attaquer à ce complexe agro-industriel, on va pouvoir multiplier encore les victimes, on aura toujours ce déni.
Suite à l'alerte d'Yves-Marie, le procureur a bien été obligé de réagir. Il a demandé des mesures d'hydrogène sulfuré dans les vases, sur le lieu du décès. Les résultats se sont avérés être encore plus élevés que ceux que mon voisin avait notés. Le procureur a donc décidé d'exhumer le corps du jogger pour le faire autopsier.
Il se décide à exhumer le corps du jogger 3 semaines, 15 jours, 3 semaines après l'enterrement.
De grandes quantités d'hydrogène sulfuré ont été retrouvées, mais vu le temps qui s'était écoulé, impossible de dire si ce gaz toxique provenait de la putréfaction des algues ou bien de celle du corps.
Alors que c'est d'une simplicité, mais justement, on voit bien qu'on ne veut pas le faire, parce que sinon ce serait très simple de faire quoi ? Une personne meurt dans un endroit qui a été particulièrement accidentogène, hein, le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a eu énormément d'animaux qui sont morts, tout de suite, cette personne, on aurait dû lui faire un prélèvement sanguin. Avec le prélèvement sanguin, là, quand ils l'ont repéré, le lendemain, on savait s'il y avait un taux d'hydrogène sulfuré important dans le corps ou pas. Ça n'a pas été fait, bien sûr.
Morgane, ma collègue de RKB, en tire la conclusion suivante. Dans ce dossier, c'est systématique. On enterre les corps et on les déterre quand on est sûr qu'ils ne pourront plus apporter de preuves. les conclusions du procureur ont été rendues publiques 2 mois après l'autopsie, de manière très discrète, c'est-à-dire un vendredi soir, à la veille des fêtes de Noël. De plus, elle laisse perplexe mon voisin.
Il nous dit qu'il y a de l'hydrogène sulfuré dans l'organisme, il nous dit qu'il y a de l'hydrogène sulfuré partout et à haute dose dans l'endroit où on a trouvé la victime. Ils ont trouvé des concentrations d'hydrogène sulfuré de l'ordre de 1000 ppm. Quand on respire 1000 ppm, donc partie par million d'hydrogène sulfuré, ça veut dire que votre affaire peut être faite en une minute. C'est ce que les scientifiques appellent le coup de plomb. Il nous dit que la victime, elle a tous les symptômes d'une mort soudaine et violente, tout à fait ce que provoque l'hydrogène sulfuré. Il dit aussi qu'il y a un œdème au poumon, qui est caractéristique de la mort par hydrogène sulfuré. Et il conclut, on ne peut pas établir de lien direct entre la mort de la victime et la présence d'hydrogène sulfuré dû aux marées vertes sur place. Moi, en tant qu'enseignant de philosophie, j'ai une copie comme ça, je mets deux parce que c'est monsieur le procureur. Revoyez votre copie. C'est inquiétant que vous puissiez produire des écritures de ce type-là.
Donc c'est quand même grâce à vous que finalement la lumière a été faite sur cette affaire.
Il est certain que c'est à partir du moment où nous avons écrit au procureur, que la lettre au procureur a apparu dans la presse, que il y a un pompier qui s'est réveillé, et que après, il y a eu un rapport d'autopsie, et puis que tout est parti. Sinon, le corps était enterré, puisque monsieur le maire de Huillon ne faisait que pleurer cette victime, tout en disant que les marées vertes n'avaient rien à voir avec ça. Donc on allait à l'enterrement, on pleurait, et puis l'affaire était classée.
J'ai rencontré la famille du jogger. C'est par la presse qu'elle a découvert l'étrangeté de la version officielle. Elle songe à demander des explications aux autorités. Afin d'éclairer ce qu'il s'est passé, m'a-t-elle dit, pour elle et pour les autres.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton d'Inès Leroux, saison 2, épisode 2, Changer la face du monde. Un reportage réalisé par Jean-Christophe Francis. Merci à Alice Sternberg, à Maïlé Luneau, à Philippe et à Gilou. Je vous signale que, en lien sur la page de l'émission Les Pieds sur Terre sur le site de France Culture, vous pourrez avoir accès et trouver les 12 premières planches de l'article en BD consacré aux marées vertes dans la revue Dessinée. Les dessins sont de Pierre Van Hove et les textes et l'ensemble de l'enquête d'Inès Leroux. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire en ce moment. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux si elles vous ont intéressé, à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui vous attendent nombreux.